Chapitre 16. Brian et moi avons eu notre première dispute sérieuse après 4 mois de mariage. Pendant la 2e semaine d'avril, une tempête de neige inattendue avait enseveli la Nouvelle-Angleterre. J'étais de service cette nuit-là, et à 7 heures du matin, le Pike n'était plus qu'un enchevêtrement d'accidents en série, de véhicules à l'abandon et de piétons paniqués. Nous avions du travail jusque par-dessus la tête. Le service de nuit se prolongeait en service de jour, alors même qu'on appelait des renforts et que l'essentiel des services d'urgence était sur le pied de guerre. Bienvenue dans la vie d'un policier en tenue lorsque débarque un blizzard du Cap Hatteras. À 11 heures du matin, 4 heures après la fin normale de mon service, j'ai réussi à appeler chez moi. Personne n'a répondu. Je ne me suis pas inquiétée. J'ai pensé que Brian et Sophie devaient être en train de jouer dehors dans la neige. Peut-être qu'il faisait de la luge, qu'il fabriquait un bonhomme, ou qu'il creusait pour trouver de gros crocus violets sous la neige bleue glace. À 1 heure de l'après-midi, mes collègues et moi avions réussi à déblayer la plupart des accidents, à faire remorquer 30aine de véhicules en panne et repartir 20aine de conducteurs en rade. Dégager l'autoroute permettait aux chasse-neige et engins de sablage de faire enfin leur boulot, ce qui nous facilitait en retour le travail. Je suis finalement retournée à mon véhicule le temps d'avaler une gorgée de café froid et de jeter un œil à mon portable qui avait sonné plusieurs fois à ma ceinture. J'étais en train de découvrir que Madame Ennis m'avait appelé un paquet de fois quand mon beeper a sonné sur mon épaule. C'était le central qui cherchait à me joindre. Il voulait me mettre en relation avec un correspondant pour un appel d'urgence. Mon cœur s'est emballé. D'instinct, je me suis raccrochée au volant de ma voiture comme à une bouée de sauvetage. J'ai le vague souvenir d'avoir donné mon autorisation et d'avoir décroché la radio pour entendre la voix paniquée de Madame Ennis. Cela faisait plus de 5 heures qu'elle attendait. Où était Sophie? Où était Brian? Au début, je n'ai pas compris, mais les éléments de l'histoire se sont peu à peu précisés. Brian avait appelé Madame Ennis à 6 heures du matin, quand la neige avait commencé à tomber. Il avait regardé la météo et, accro à l'adrénaline qu'il était, il en avait conclu que ce serait le jour idéal pour skier dans la poudreuse. La garderie de Sophie resterait certainement fermée. Est-ce que Madame Ennis pouvait s'occuper d'elle? Madame Ennis avait accepté, mais il allait lui falloir au moins 1 heure ou 2 pour rejoindre la maison. Brian n'avait pas été ravi à cette idée. Les routes allaient être de plus en plus mauvaises, etc. Il avait donc plutôt proposé de déposer Sophie chez Madame Ennis en partant. Madame Ennis avait préféré cette solution qui lui évitait de prendre le bus. Brian serait là à 8 heures. Elle était convenue que Sophie aurait un petit déjeuner qui l'attendrait. Sauf qu'il était maintenant 1 heure et demie de l'après-midi. Pas de Brian, pas de Sophie, et personne ne répondait à la maison. Que s'était-il passé? Je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir, je refusais de me représenter les possibilités qui m'étaient spontanément venues à l'esprit. La façon dont un adolescent peut être éjecté d'une voiture et projeté contre un poteau téléphonique, ou dont la colonne de direction d'une vieille voiture sans airbag peut défoncer la cage thoracique d'un adulte et le laisser parfaitement immobile au point que vous le croiriez endormi sur le siège conducteur jusqu'au moment où vous remarquez le filet de sang au coin de sa bouche. Ou encore cette petite fille de 8 ans, que tout juste 3 mois auparavant, il avait fallu désincarcérer de l'avant embouti d'une berline pendant que sa mère, relativement indemne, expliquait en hurlant que le bébé pleurait, qu'elle s'était juste retournée pour jeter un œil au bébé. Voilà les choses que je sais. Les scènes dont je me souvenais quand j'ai démarré d'un coup sec, que j'ai mis gyrophare et sirène et que je suis rentrée chez moi à 1/2 heure de là dans mon véhicule qui chassait de l'arrière dans la neige. Mes mains tremblaient quand je me suis arrêtée sur les chapeaux de roue devant notre garage en briques, l'avant de la voiture sur le trottoir, l'arrière sur la chaussée. Laissant le gyrophare allumé, je suis descendue de voiture et j'ai gravi 4 à 4 les escaliers enneigés vers la maison plongée dans le noir. Ma botte s'est posée sur une première plaque de glace et je me suis retenue à la rampe métallique juste à temps pour ne pas dégringoler dans la rue. Je suis arrivée en haut, j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, manipulé mes clés d'une main tout en frappant de l'autre, même si les fenêtres sans vie me disaient tout ce que je n'avais pas envie de savoir. Pour finir, d'un violent mouvement de poignet, j'ai tourné la clé dans la serrure puis poussé la porte. Rien. Cuisine vide, séjour désert, je me suis précipitée à l'étage, personne dans les 2 chambres. Mon ceinturon cliquetait bruyamment à ma taille et l'écho de mes bottes résonnait dans les escaliers quand je suis redescendue en courant dans la cuisine. Là, je me suis enfin arrêtée. J'ai respiré un bon coup et je me suis rappelé que j'étais officier de police. Moins d'adrénaline, plus d'intelligence. Voilà comment on résolvait les problèmes. Comment on restait aux commandes.
« Maman ! Maman, tu es rentrée !»
Mon cœur a fait un bond immense dans ma poitrine. Je me suis retournée juste à temps pour attraper ma Sophie qui se jetait dans mes bras, m'étreignait encore et encore et se lançait sans reprendre son souffle dans le récit effréné et enfantin de sa palpitante journée de neige, au point que j'en avais de nouveau le tournis. Ensuite, je me suis aperçue que Sophie n'était pas revenue seule, mais qu'une jeune voisine se tenait sur le pas de la porte. Elle m'a saluée de la main. « Madame Léonie ? » a-t-elle demandé avant de rougir. « Agent Léonie, je veux dire. » Ça m'a pris un moment, mais j'ai fini par comprendre. Brian était bel et bien parti skier. Mais il n'avait jamais emmené Sophie chez Madame Ennis. En fait, pendant qu'il chargeait son matériel, il était tombé par hasard sur Sarah Clemons, 15 ans, qui habitait l'immeuble d'à côté. Elle déneigeait l'allée, il lui avait parlé, et avant d'avoir eu le temps de dire ouf, elle avait accepté de garder Sophie jusqu'à mon retour, afin que Brian puisse quitter la ville plus rapidement. Sophie, en adoration devant les adolescentes, avait été enthousiasmée par ce changement de programme. Sarah et elle avaient, semblait-il, passé la matinée à faire de la luge dans la rue, à se lancer des boules de neige et à regarder des épisodes de Gossip Girl que Sarah avait enregistrés sur son magnétoscope numérique. Brian n'avait pas précisé l'heure de son retour, mais il avait laissé entendre à Sarah qu'elle me verrait rentrer à un moment ou un autre. Sophie avait vu ma voiture arriver dans la rue et voilà. J'étais à la maison, Sophie était contente et Sarah soulagée de rendre l'enfant qu'on lui avait confié à l'improviste. J'ai réussi à dénicher $50 en faisant les fonds de tiroir. Ensuite, j'ai appelé Madame Ennis, rendu compte au central et envoyé ma fille, dopée au chocolat chaud et au feuilleton pour adolescente, faire un bonhomme de neige dans le jardin. Debout sur la terrasse pour la surveiller, toujours en tenue, j'ai passé mon premier coup de fil sur le portable de Brian. Il n'a pas répondu. Après ça, je me suis forcée à ranger mon ceinturon dans le coffre-fort de la grande chambre en prenant bien soin de refermer la serrure à combinaison. Il y a d'autres choses dont je me souviens, d'autres choses que je sais. Sophie et moi sommes arrivés tant bien que mal au bout de la journée. J'ai découvert qu'on peut avoir envie de tuer son conjoint et rester un parent efficace. Nous avons mangé des macaronis au fromage pour le dîner, fait plusieurs parties de Candyland, puis j'ai mis Sophie dans la baignoire pour son bain du soir. À 8h30, elle dormait à poing fermé dans son lit. Je faisais les 100 pas entre la cuisine, le séjour et le salon d'hiver où régnait un froid glacial. Ensuite, je suis ressortie dans l'espoir d'épuiser ma fureur grandissante en déneigeant le toit au râteau et en déblayant l'escalier et la terrasse. À 10h du soir, j'ai pris une douche bien chaude et enfilé un uniforme propre. Je n'ai pas ressorti le ceinturon du coffre. Il aurait été imprudent que j'aie mon six-hour sur moi. À 10h15, mon mari est enfin rentré avec un énorme sac et ses skis. Il sifflotait, se déplaçait avec la grâce déliée d'un homme qui s'était livré toute la journée à une activité physique intense. Il a calé ses skis contre le mur, posé son sac, balancé ses clés sur la table de cuisine et il commençait à enlever ses chaussures quand il m'a vu. Il a eu l'air de voir d'abord mon uniforme et son regard s'est dirigé par réflexe vers la pendule. « Il est si tard que ça ? Mince, je suis désolée, je n'ai pas vu le temps passer. » Je le regardais d'un œil noir, les mains sur les hanches, une caricature de dragon domestique. Je n'en avais strictement rien à foutre. « Où ?» Tu étais. Les mots sont sortis comme ça, secs et sévères. Brian a levé les yeux, sincèrement surpris. Au ski? Sarah ne t'a pas dit? La petite voisine? Elle a bien ramené Sophie, non? Drôle de question à poser à une heure pareille, tu ne crois pas? Il a hésité, moins sûr de lui. Sophie est rentrée? Oui. Sarah s'en est sortie? Je veux dire, Sophie va bien? On dirait. Brian a hoché la tête, parut réfléchir. « Dans ce cas, où est le problème ?»« Madame Ennis !»« Merde » s'est-il exclamé en se relevant. « J'étais censé l'appeler en voiture, sauf que c'était vraiment la merde sur la route. Il fallait que je garde mes deux mains sur le volant et le temps que je rejoigne l'autoroute où ça roulait mieux. Oh, zut !» Il a poussé un soupir, s'est laissé retomber sur sa chaise. « J'ai foiré sur ce coup-là. » Tu as laissé ma fille avec une inconnue. Tu es parti t'amuser alors que j'avais besoin de toi ici. Et tu as fait paniquer une vieille dame géniale qui va sans doute devoir doubler ses doses de médicaments pour le cœur pendant une semaine.
Ouais, a reconnu mon mari entre ses dents. J'ai déconné. J'aurais dû l'appeler. Je suis désolée.
Comment tu as pu?
Il s'est remis à délacer ses chaussures.
J'ai oublié. J'étais partie pour déposer Sophie chez Madame Ennis, mais j'ai croisé Sarah. Elle habite juste à côté.
Tu as laissé Sophie toute la journée avec une inconnue!
Oh là, oh là, oh là ! Il était déjà 8 heures, je pensais que tu serais de retour d'une minute à l'autre.
J'ai travaillé jusqu'à plus d'une heure de l'après-midi et j'y serais encore si Madame Ennis n'avait pas appelé le central pour qu'on me bipe de toute urgence.
Brian a blêmi et arrêté de triturer ses chaussures.
Oh oh. Je rigole pas !
D'accord, d'accord. C'est sûr, aucun doute. Oublier d'appeler Madame Ennis était une connerie monumentale. Je suis désolée, Tessa. Je l'appellerai demain matin pour m'excuser.
Tu n'as aucune idée de la peur que j'ai eue.
Il fallait que je le dise. Il n'a rien répondu.
Pendant tout le trajet, en voiture, est-ce que tu as déjà tenu une tête de nouveau-né entre tes mains, Brian ?
Il n'a rien répondu.
C'est comme de tenir des pétales de rose. Les fragments qui ne sont pas soudés sont si fins qu'on pourrait voir à travers, si légers qu'en soufflant dessus, on les ferait s'envoler. Voilà ce que je sais, Brian. Ce que je ne peux pas oublier. Alors ne t'avise pas de déconner avec une femme comme moi, Brian. Ne t'avise pas de confier ma fille à une inconnue, ni de te débarrasser d'elle pour partir t'amuser. Tu surveilles, Sophie. Sinon, tu peux sortir de nos vies, c'est clair.
J'ai déconné,
a-t-il répondu d'une voix égale, s'est entendu.
Est-ce que Sophie va bien ?
Oui !
Est-ce qu'elle a bien aimé Sarah ?
Apparemment !
Et tu as appelé Madame Ennis ?
Évidemment !
Alors, au moins, tout est bien qui finit bien.
Il est retourné à ses chaussures. J'ai traversé la cuisine à une vitesse telle que j'ai failli décoller.
« Tu m'as épousée ! »
ai-je rappelé à mon mari de fraîche date.
« Tu m'as choisi ! Tu as choisi, Sophie ! » « Comment tu oses nous laisser tomber comme ça ?»«
C'était juste un coup de fil, Tessa. Et oui, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. »«
J'ai cru que tu étais mort. J'ai cru que Sophie était morte. »«
Oui, d'accord. Mais dans ce cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que je sois rentrée, non ?»«
Brian !»«
Je sais que j'ai déconné. »
Renonçant à s'occuper de ses chaussures, il avait levé les bras au ciel.
« C'est nouveau pour moi. » Je n'avais encore jamais eu de femme ni d'enfant et ce n'est pas parce que je t'aime qu'il ne m'arrive pas d'être con. Nom d'un chien, Tessa. Je vais bientôt rembarquer. J'avais juste envie d'une dernière journée sympa, de la neige fraîche, skier dans la poudreuse.
Il a inspiré, expiré. Il s'est levé et a dit plus calmement.
Tessa, jamais je ne vous ferai volontairement du mal à Sophie ou à toi. Je vous aime toutes les deux. Et je te promets de faire mieux la prochaine fois. Fais-moi un peu confiance, d'accord ? C'est nouveau pour tous les deux et on fera sûrement des erreurs, alors je t'en prie, fais-moi un peu confiance.
J'ai relâché mes épaules. Je n'avais plus envie de me battre. J'ai oublié ma colère le temps de me sentir soulagée que ma fille aille bien, que mon mari soit sain et sauf et que l'après-midi se soit finalement bien passé. Brian m'a attiré contre lui. Je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Je l'ai même enlacé à la taille.
Fais attention, Brian.
Et je murmurai sur son épaule.
« Souviens-toi que je ne suis pas une femme comme les autres. »
Pour une fois, il n'a pas protesté. Je me souvenais de cet épisode de notre mariage, et d'autres encore, au moment où l'infirmière s'écartait et m'invitait à faire un premier pas hésitant. À 6 heures du matin, j'avais réussi à manger un toast sec sans vomir. À 7h30, on m'avait fait asseoir sur le fauteuil à côté de mon lit, pour voir comment je supportais la station assise. Pendant les premières minutes, la douleur de mon crâne s'était réveillée, puis elle s'était calmée et assourdie. La moitié de mon visage était encore tuméfiée et sensible, je tenais à peine sur mes jambes, mais dans l'ensemble j'avais fait des progrès pendant ces 12 dernières heures. J'étais capable de me lever, de m'asseoir et de manger des toasts secs. Vaste monde, me voilà. J'aurais voulu sortir de l'hôpital en courant comme une folle éperdument, et sur le trottoir j'aurais retrouvé par miracle ma Sophie en train de m'attendre. Je l'aurais prise dans mes bras en virevoltant. Elle aurait lancé un joyeux « Maman !» et je lui aurais fait des câlins, des bisous. Je lui aurais dit combien j'étais désolée pour tout, et je ne l'aurais plus jamais lâchée. « Bon, » a sèchement dit l'infirmière, « premier pas, on voit ce que ça donne. » Elle m'a offert son bras pour que je m'appuie dessus. Mes genoux tremblaient violemment, et j'ai posé une main reconnaissante sur son bras. Ce premier pas traînant m'a fait tourner la tête. J'ai cligné plusieurs fois des yeux et mon étourdissement est passé. Tout a repris sa place. On progressait. J'ai avancé peu à peu, comme un petit hoquet de mes pieds qui m'ont porté lentement mais sûrement sur le lino gris jusqu'à la salle de bain. J'y suis entrée, et j'ai doucement refermé la porte derrière moi. L'infirmière m'avait apporté des articles de toilette. Deuxième test de la journée, serais-je capable d'uriner et de me doucher toute seule? Ensuite, le médecin avait dit qu'il me réexaminerait. Alors peut-être et seulement peut-être que je pourrais rentrer chez moi. Sophie, assise par terre dans sa chambre au milieu des fleurs orange vif et des petits lapins peints au pochoir, en train de jouer avec sa poupée préférée avec ses cheveux effilochés.
« Maman, tu es rentrée! Maman, je t'aime !»
Debout devant le lavabo, j'ai examiné mon reflet dans le miroir. Les chairs autour de mon œil étaient tellement noires et gorgées de sang qu'on aurait dit une aubergine. Je devinais à peine l'arête de mon nez ou mon arcade sourcilière. J'ai repensé à cette scène dans un des premiers Rocky. Celle où ils incisent sa paupière enflée avec un rasoir pour qu'il puisse voir quelque chose. Il allait peut-être falloir que je tente ça. La journée ne faisait que commencer. Mes doigts sont passés de mon œil au beurre noir à l'entaille 5 cm au-dessus. La croûte était en train de se former et tirait sur la racine de mes cheveux. J'ai ensuite passé la main sur la bosse volumineuse qui faisait toujours un renflement à l'arrière de mon crâne. Chaude et douloureuse au toucher. J'ai laissé ma main retomber et je me suis raccrochée au bord du lavabo. 8 heures, lundi matin. L'autopsie devait être commencée depuis 1 heure. Pratiquer une incision en Y sur le torse de mon mari. Écarter les 2 moitiés de sa cage thoracique. Repêcher 3 balles tirées avec le Sig Sauer 9 mm qui portait mes empreintes. Et le bruit de la scie lorsqu'il commencerait à découper la boîte crânienne. 8 heures, lundi matin. J'ai encore pensé à tous ces instants que j'aurais aimé revivre. Les endroits où j'aurais dû dire oui. Les moments où j'aurais dû dire non. Alors Brian serait encore en vie. Peut-être qu'il farterait ses skis en vue de sa prochaine grande sortie. Et Sophie serait à la maison, en train de jouer par terre dans sa chambre, Gertrude calée contre elle à m'attendre. 8 heures, lundi matin. « Dépêchez-vous, Titi et Poppy !» ai-je murmuré. « Ma fille a besoin de vous !»